Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le vert va-t-il prendre le pas sur le rouge? Et que signifiera être en vert? La valse des couleurs reprend sur la carte de France. Phase 2 du déconfinement annoncé cet après-midi. Les restaurateurs, les lycéens et les collégiens en attendent beaucoup, vous l'entendrez.
Nous donnerons la parole aussi aux professionnels de la culture, dans le secteur musical notamment. Les gestes de sécurité sanitaire sont difficilement applicables dans les salles de concert.
C'est une étincelle qui pourrait raviver la flamme. La Chine propose aujourd'hui un projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Le texte remet un peu plus en cause l'autonomie de la péninsule.
Et puis dans ce journal également, nous nous pencherons sur la colère diplomatique d'Alger vis-à-vis de Paris. L'Algérie rappelle son ambassadeur après des documentaires télévisés sur le Irak.
Enfin, en ces temps où les partis politiques sont unanimement critiqués, le salut de la démocratie passera-t-il quand même par un retour en grâce des formations politiques? La question sera posée à 8h16 dans le billet politique de Frédéric Saïs. C'est à 17h cet après-midi que le Premier ministre Édouard Philippe précisera les conditions d'un déconfinement plus vaste dans le pays. Déplacements, règles sanitaires, reprise économique, les attentes sont d'autant plus grandes que les chiffres sont bons. La mortalité baisse, le nombre de patients atteints par la Covid-19 en réanimation aussi. La zone verte devrait donc s'étendre, du moins dans le nord et dans l'est de la France. Et plutôt que de se perdre ce matin en conjectures, penchons-nous sur les espoirs justement des uns et des autres. Ceux des cafés, des bars, des restaurants notamment. Fermés depuis 2 mois et demi, ils se préparent à rouvrir la semaine prochaine, du moins en zone verte. Une reprise difficile économiquement, mais aussi mentalement, car les règles à respecter seront sans doute compliquées. Il faudra du temps pour parler d'une vraie reprise, selon ce chef et propriétaire d'un restaurant à Boulogne-Billancourt, Jonathan Charlois.
J'ai hâte que ça reprenne comme avant, parce qu'aujourd'hui, imaginez un restaurant dans lequel il y a 1 mètre de distance entre chaque client, que les gens doivent parler au travers de, on ne sait pas, une vitre en plexiglas, un masque, une cloche, on n'en sait rien. Que ce soit un environnement qui soit complètement épuré, aseptisé, silencieux, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je souhaite pour demain. Le bistrot, c'est tout sauf ça. Le bistrot, c'est convivial. Le bistrot, c'est tu tapes dans l'épaule de ton copain, tu n'as pas goûté ça, la prochaine fois, il faudrait que tu prennes ça, goûte, c'est bon, voilà. On est en France, on a un esprit latin, on fera tout ce qu'il faut faire, le temps qu'il faudra le faire, mais on a hâte de pouvoir retrouver les conditions d'avant. Aujourd'hui, un serveur qui s'approche d'une table avec un gant, un masque, qui essaye d'expliquer la carte, le menu, c'est ridicule en fait. Je comprends absolument que ce soit nécessaire pour des raisons de santé. Après, éthiquement, philosophiquement, c'est pas ma conception de la restauration aujourd'hui. On le fera en assumant le ridicule.
À quoi ressemblera le restaurant, ridicule ou non, et plus largement à quoi ressembleront les repas à la française demain? C'est le thème du hashtag de Rosalie Lafarge cette semaine, qui sera diffusé demain matin sur l'antenne de France Culture. Et d'ici là, vous pouvez toujours témoigner sur les pages Facebook et Twitter de hashtag avec le mot-clé « Mon resto déconfiné ». Parmi les établissements potentiellement autorisés à rouvrir encore, soulignons les lycées en zone verte. Et cette question pour les 500 000 élèves de première, l'oral de baccalauréat du français aura-t-il lieu? C'est la seule épreuve maintenue pour le moment, mais l'opposition des élèves et des professeurs est quasi unanime. Il ne pourra pas y avoir d'oral si seule une partie des lycées rouvre demain. Cela créerait alors une rupture d'égalité entre les candidats. Voilà ce que disent les élèves et les professeurs. Et dans les collèges maintenant, y aura-t-il une inégalité entre les élèves pour la rentrée prochaine? Entre ceux qui auront pu travailler les programmes de cette fin d'année et les décrocheurs? La semaine prochaine, les collèges devraient rouvrir pour les départements qui passeront du rouge au vert. Mais pour le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qu'importe la couleur de sa zone, il est temps maintenant pour que les décrocheurs reprennent le chemin de l'école, même si le 93 reste en rouge. Donc, face à la méfiance des syndicats du département, il avance plusieurs arguments, Catherine Dutu.
Pour soulager à la fois les familles nombreuses qui vivent dans des logements trop exigus ou pour accompagner les salariés qui ont repris le travail ou qui ne l'ont jamais arrêté, Stéphane Troussel, le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, milite depuis des semaines pour une réouverture à minima des collèges avec les décrocheurs comme élèves prioritaires.
Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire revenir les 80 000 collégiens dans les 130 collèges de Seine-Saint-Denis. Si j'en crois le responsable du syndicat des chefs d'établissement, c'est 30% d'élèves décrocheurs en Seine-Saint-Denis. On ne peut pas être 6 mois sans école, en particulier pour ces élèves en difficulté.
Le décrochage scolaire s'est effectivement aggravé pendant le confinement, faute d'accès à Internet, de conditions correctes pour travailler à la maison ou encore de disponibilité des parents. Grégory Tuisa, professeur de français au collège Henri Barbusse à Saint-Denis, l'a directement constaté, mais celui qui est aussi co-secrétaire départemental du SNES FSU 93 doute du volontarisme politique affichée aujourd'hui par le département.
Depuis plusieurs années, les moyens dévolus à ces élèves les plus fragiles, en particulier au décrochage scolaire, ont baissé. Par ailleurs, très clairement, le volontarisme affiché manque sa cible, puisqu'on voit bien, par exemple, dans les quartiers nord de Marseille, que les élèves des classes sociales les moins favorisées ou que les élèves décrocheurs et décrocheuses ne sont pas revenus dans les établissements.
Le SNES explique ce phénomène par une certaine défiance vis-à-vis des pouvoirs publics et de leur gestion de la crise sanitaire. La Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de l'Hexagone, a enregistré une surmortalité de près de 130% entre le 1er mars et le 27 avril dernier par rapport à la même période en 2019.
Et j'ajoute qu'hier, l'Agence régionale de santé en Île-de-France se montrait plus optimiste sur ces chiffres de la surmortalité pour le mois de mai qui vient de s'écouler. Ouverture des restaurants, de certains établissements scolaires, qu'en sera-t-il maintenant des lieux culturels ? Là encore, pas de conjecture ce matin, mais un bilan alarmant et donc beaucoup d'espoir. Les droits à l'assurance chômage ont déjà été prolongés d'un an pour les intermittents. Il faudra sans doute plus, selon le président du Centre National de la Musique, qui évoque pour le spectacle musical près de 2 milliards d'euros de pertes en 2 mois. Et cela devrait continuer même après la réouverture des salles. Explication d'Yvan Plantel.
Reprendre l'activité, oui, mais il faut le préparer. Voilà en substance ce que souhaitent les professionnels, car si les salles rouvrent, il faudra respecter la distanciation physique, c'est-à-dire diviser par 12 la capacité des salles pour placer une personne tous les 4 mètres carrés, impensable pour Laurent Dessé, le directeur du Petit Bain, une salle de concert parisienne indépendante.
La capacité de Petit Bain, c'est 450, elle serait réduite à 37 personnes et demie, masquées, statiques. Voilà, est-ce qu'on a envie de défendre ça comme projet ? En tout cas, ça deviendrait quelque chose de très triste.
Triste et surtout très peu rentable. Pour le Petit Bain, il faut que la salle soit pleine aux 2/3 pour dégager des bénéfices. Les autres petites structures auront du mal à relever la tête, selon Auréliane Douche, directrice générale au syndicat des musiques actuelles.
Les structures qui sont subventionnées, c'est moins douloureux pour elles pour l'instant. De même que celles qui ont des grands groupes derrière avec des capitaux qui vont pouvoir amortir la crise également. Celles qui souffrent de la crise et qui la prennent pour l'instant de plein fouet, ce sont des structures indépendantes qui sont peu subventionnées et peu soutenues par les groupes d'actionnaires, donc qui sont très dépendantes de leurs recettes propres.
Pour cela, l'État doit continuer à aider tout particulièrement ce secteur, selon Gilles Petit, producteur de spectacles musicaux et humoristiques.
Au moins jusqu'au 31 décembre, on garantit à tout le monde que l'activité partielle sera maintenue. Et puis ensuite de ça, évidemment, il faut que d'autres outils servent aussi, comme les crédits d'impôt qui favorisent la création, et ça c'est très important. Tous les outils qui peuvent favoriser ça seront les bienvenus.
Un fonds d'urgence existe déjà, initié par le Centre National de la Musique, mais il compense difficilement les pertes liées au confinement. Son plafond culmine à 35 000 euros.
Pour le secteur de la culture encore, je précise que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr un dossier sur Emmanuel Macron et la culture en ligne de fuite, dossier réalisé par Anne Fauquemberg. Pour aider un peu plus la culture encore, mais aussi les secteurs du tourisme, du bâtiment, des transports, de la tech, notez que la France pourrait bénéficier d'un plan de 750 milliards d'euros de la part de la Commission européenne, d'une partie de ce plan en tout cas. Le plan doit relancer les économies des pays européens les plus touchés par la pandémie. Et la France serait le 4e principal bénéficiaire après l'Espagne, l'Italie et la Pologne. La France qui pourrait donc toucher 38,5 milliards d'euros de subventions. En bref encore, et à l'aube de la 2e phase de déconfinement, le Parlement français a validé hier l'application du traçage Stop Covid, application qui devrait être téléchargeable ce week-end. Elle permettra de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade du nouveau coronavirus. L'application est controversée. Elle sera temporaire et anonyme. Voilà ce que dit le gouvernement.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Pékin veut mettre fin au mouvement de contestation à Hong Kong.
Oui, à travers un projet de loi qui est examiné en ce dernier jour de réunion pour l'Assemblée nationale populaire chinoise. Les quelques 3000 délégués doivent valider aujourd'hui un texte controversé sur la sécurité nationale à Hong Kong. Ce texte veut officiellement lutter contre la sécession, la subversion, le terrorisme et l'ingérence étrangère dans la ville. En clair, l'autonomie de Hong Kong se réduit comme peau de chagrin sous la direction du président chinois, Dominique André.
Xi Jinping a perdu patience. La future loi sur la sécurité nationale sera votée à Pékin pour être appliquée à Hong Kong. La législation prévoirait une agence chinoise de renseignement dans le territoire semi-autonome. Et sur le plan judiciaire, le rôle des juges étrangers serait limité. 15 des 23 juges de la plus haute cour de Hong Kong sont britanniques, canadiens et australiens, conformément aux accords signés lors de la rétrocession en 1997. Ils ne pourraient plus être autorisés à juger les affaires de sécurité nationale. Pékin ira au bout, prévient Choi In-rong, conseiller du gouvernement central.
Le gouvernement central contourne le parlement local hongkongais qui ne peut pas élaborer cette loi. C'est impossible pour lui. L'Assemblée nationale populaire exerce son autorité et sa souveraineté avec la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. La loi sera appliquée le plus tôt possible. Le gouvernement central a déjà pensé aux manifestations que la nouvelle loi provoquera sur l'île et aux perturbations faites par les États-Unis. Rien n'empêchera la Chine de rédiger cette loi. Rien ne pourra retarder son application.
Après le feu vert de l'Assemblée nationale populaire, une commission va se réunir pour rédiger la loi qui ne vise qu'une poignée de délinquants, affirme la chef de l'exécutif local Carrie Lam. Mais aucune consultation publique ou législative sur le plan local n'a été faite.
Car effectivement, ce texte affole déjà à Hong Kong. Il affole aussi la communauté internationale et notamment les États-Unis qui estiment que le projet de loi nuit à l'autonomie de la péninsule et que Hong Kong ne peut plus prétendre à un statut spécial. Hong Kong qui est jusque-là, rappelons-le, une place financière majeure et surtout une porte d'entrée économique de la Chine vers le monde. Autre front chinois qui préoccupe la communauté internationale et encore une fois les États-Unis, l'attitude de Pékin vis-à-vis des Ouïghours, communauté musulmane en Chine. Hier, le Congrès américain a adopté une proposition de loi pour sanctionner des responsables chinois accusés d'internement de masse des Ouïghours. C'est maintenant au président américain de promulguer cette loi. Les deux documentaires ne leur ont pas plu. Les autorités algériennes rappellent leur ambassadeur à Paris après la diffusion de deux films sur les chaînes France 5 et LCP. Deux documentaires sur l'Algérie et plus précisément sur le mouvement de contestation, le Irak. Alger en a fait une affaire diplomatique car ces documentaires ont été diffusés sur des chaînes publiques. Le ministère algérien des Affaires étrangères a publié hier soir un communiqué très ferme. Franck Madvon.
Des attaques contre le peuple algérien et ses institutions. C'est ainsi que le gouvernement algérien qualifie les programmes récurrents diffusés sur les télés publiques françaises. Le premier documentaire visé, Algérie, les promesses de l'aube, a déjà été diffusé l'an dernier. Il est consacré au premier mois du Irak. Le second film, Algérie, mon amour, inédit jusqu'à mardi soir sur France 5, donne la parole à 5 jeunes Algériens.
Je me sens vraiment étouffé dans le pays dans lequel je vis. Pourtant, c'est un pays que j'aime, mais je me sens étouffé.
Des propos libres, critiques, émouvants aussi, le portrait d'une jeunesse désenchantée, contemporaine du Irak, plus qu'un film sur le mouvement de contestation en tant que tel. Algérie mon amour a suscité un débat vif sur les réseaux sociaux. Des Algériens disent ne pas se reconnaître dans ce film qui aborde aussi les questions taboues du sexe ou de l'alcool. Le régime algérien y est régulièrement pris pour cible.
C'est un régime totalitaire en fait. C'est un système que je peux qualifier comme étant mafieux.
Dans son communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce les intentions malveillantes de certains milieux sous le prétexte de la liberté d'expression.
C'était Franck Madvon pour France Culture. Partons maintenant dans la région amiénoise, en France. Une décision est très attendue aujourd'hui. Après leur licenciement il y a 6 ans, les ex-Goodyear ont contesté le motif économique de la fermeture de leur usine de pneus. Ils réclament entre 2 et 4 ans de salaire en fonction de leur ancienneté avant leur licenciement. Car disent-ils, le groupe Goodyear annonçait plus de 2,5 milliards d'euros de profits. Il en a été question devant la justice il y a 1 an et demi, Catherine Pétillon.
Les audiences devant les prud'hommes d'Amiens ont vu s'affronter deux analyses très divergentes. Des résultats du groupe d'abord. Les deux parties ne s'entendent pas sur son niveau d'endettement alors, mais surtout, elles n'en tirent pas les mêmes conclusions. Pour la défense, désendetter le groupe était une obligation et la nécessité de rester compétitif a justifié les licenciements économiques. Pour les ex-salariés, si un groupe peut verser des millions de dividendes, c'est que le désendettement n'est pas la priorité. Autre point de clivage, où tourner le regard ? Vers la multinationale ou le site d'Amiens Nord ? Pour les ex-salariés, c'est une évidence. La maison mère a organisé la baisse de la production et planifié la fermeture. Pour la défense, c'est le refus des salariés de s'adapter et de changer leur organisation qui les a rendus moins compétitifs, ne laissant d'autre choix à Goodyear que de fermer. En jugeant si les licenciements étaient ou non justifiés, c'est donc entre deux visions que le tribunal va trancher, une décision particulièrement attendue. Sur le millier de salariés licenciés, pratiquement aucun n'a retrouvé d'emploi.
Le temps sera calme et le ciel dégagé ce jeudi encore, contrairement au ciel de Floride où le mauvais temps a poussé hier soir au report du vol habité de SpaceX vers l'espace, un vol américain repoussé donc à samedi. Et en attendant, je vous le disais en France, le ciel est dégagé, ensoleillé avec 20 degrés ce matin à Paris, à Besançon ou à Dijon, 22 à Rennes, à Lyon, 23 à Marseille, 24 à Bordeaux.
Merci Clara Lecoq-Réal.